Bahsedeyim. Voilà. Donc voilà, je suis là en tant que représentant, si on veut dire comme ça, porte-parole de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, c'est donc une association qui existe depuis 66 ans cette année, qui vient en aide aux chrétiens persécutés. Et très logiquement, ça a commencé, mais ça continue encore maintenant, d'amener des Bibles à ceux qui n'en ont pas. C'est aussi d'amener des formations, parce qu'il fut un temps, il y avait une nouvelle église de maison en Chine, tu as des lunettes, ça va très bien, tu vas être notre pasteur. Ça veut dire qu'au moins tu sais lire la Bible, mais ça ne fait pas de vous, la formation est quand même un peu faible, hein, on est d'accord, savoir lire ne fait pas de vous un pasteur. Donc il faut amener des formations à des gens qui en sont totalement privés. Si on est capable d'amener des Bibles, si on est capable de faire des formations en Afrique et que tout d'un coup, vous vous apercevez que les gens à qui vous apportez une formation, leur préoccupation c'est « qu'est-ce que je vais manger demain ?» et ils tombent d'inanition parce qu'ils n'ont rien mangé aujourd'hui. Alors si on est capable d'amener des enseignants par avion, peut-être qu'on est aussi capable d'amener de la nourriture par avion. Et on a dû commencer parfois de faire des ponts humanitaires pour amener tout simplement de la nourriture à nos frères et sœurs qui autrement n'ont rien parce qu'ils sont dans des zones de guerre, parce que tous les champs ont été ravagés par la guerre et ainsi de suite. Et c'est devenu pratiquement la seule activité, non, l'activité la plus importante qu'on a eue entre 2013, 2014 et en tout cas 2017-2018 dans des pays comme la Syrie et comme l'Irak. Tout d'un coup, cette aide humanitaire aux églises, pour les églises, mais pour qu'elles puissent aider leurs voisins. Ils ne demandent pas une carte d'identité. Il n'y a pas de passe sanitaire à l'entrée pour savoir est-ce que tu es chrétien ou est-ce que tu es musulman. Il paraît qu'ici, on peut recevoir de la nourriture. Oui, viens. Et ce qu'il y a eu comme conséquence à tout cela, c'est que, par exemple, en Syrie, on a eu ce témoignage où des gens nous disent « Avant la guerre, tout était cloisonné. Hein, » chaque... C'est même pas chrétien et musulman, c'est encore beaucoup plus cloisonné que ça. C'est des clans qui ne se mélangent pas, qui ne se marient pas entre eux, etc. Et il dit « La guerre a cassé toutes ces cloisons. La guerre a permis de voir qui sont nos vrais amis. » Et des musulmans qui disent « Et parmi eux, il y a des chrétiens et je ne m'attendais pas du tout à ça. » Donc, le fait d'apporter de l'aide à ces églises pour leur permettre de jouer leur rôle dans la société leur permet aussi d'établir des ponts avec des gens avec qui ils n'avaient aucune connexion auparavant. Ça, c'est trois premiers points que j'ai, Bible, formation, aide socio-humanitaire. Ça, c'est l'aide directe sur le terrain. Et après, il y a une aide indirecte, et c'est là que vous entrez en jeu, on va en reparler, et c'est la prière. Il ne faut pas négliger la puissance de la prière. Et puis, une autre aide indirecte, c'est des choses qui se passent pas très loin de chez vous, ici, par exemple à l'ONU, ou au Parlement européen. C'est tout ce que des gens qui sont nos porte-parole peuvent... Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, le Maroc est appelé à passer devant la Commission des droits de l'homme, dans quelques jours. Et puis là, tous ceux qui ont des choses à dire sur le Maroc prennent la parole, et on a des représentants là. Mais avant de monter sur l'estrade pour le dire, voilà qu'un de nos représentants s'approche du consul du Maroc, on lui dit « Écoutez, ça m'embête quand même dans quelques jours de monter sur l'estrade et de parler de la situation d'un tel qui est en prison depuis 15 ans maintenant, alors qu'il n'a rien commis, alors qu'il n'a même pas été jugé. Franchement, ça m'ennuie. » Et comme par hasard, on apprend que cette personne est libérée dans les deux jours, juste avant le moment fatidique. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui se font dans l'ombre et qui permettent aussi d'améliorer la situation des chrétiens. Alors ça, c'est l'aide directe et indirecte, ou sur le champ, et puis depuis ici. Et puis, la deuxième chose, bien, c'est préparer l'Église. Si on avait été préparé en 2019 à l'arrivée du corona, vous ne croyez pas qu'on aurait vécu un tout petit peu mieux cette crise? Si on avait su ce qui arrivait, comment ça se transmettait, il y aurait plein d'erreurs qu'on n'avait pas faites, qu'on a dû découvrir sur le moment. Et je relisais encore hier le témoignage de cette femme iranienne qui avait reçu des cours pour se préparer à la persécution. C'est des choses qui existent. Et puis voilà qu'elle était, elle avait été même nommée pasteur. Bon, ça peut choquer certains, mais enfin, elle était responsable de leur groupe de maison. Et voilà que la police secrète est arrivée. Mais non pas police ouvrez. Non, non, non. Ils sont arrivés, ils ont forcé discrètement à la porte. Ils sont rentrés dans l'appartement sans qu'on les entende arriver. Et pendant plus d'une demi-heure, ils ont écouté ce qui se passait dans la pièce à côté. Puis ils ont identifié la personne qui était, semble-t-il, la responsable du groupe, celle qui menait les débats. Et puis ils ont voulu arrêter tout le monde. Et là, parce qu'elle avait suivi ses cours de préparation, elle a dit « J'aimerais aller aux toilettes ». Elle savait qu'ils n'avaient pas le droit de l'en empêcher. Donc elle est allée aux toilettes, elle a commencé d'enlever de son téléphone tout ce qu'il y avait de compromettant, de tout effacer. Elle faisait un peu long aux toilettes. Alors il y a une fonctionnaire de police, une femme qui a tapé à la porte. « Il faut sortir maintenant !» Mais elle savait qu'ils n'avaient pas le droit de l'obliger à sortir. Donc elle a terminé son job. Puis après, ils ont cherché à l'intimider. Alors ils lui ont dit « Mais on a réussi d'intercepter ton passeport. » Elle n'a pas paniqué parce qu'elle sait que la plupart du temps, ils bluffent. Et son passeport était effectivement en train d'être renouvelé. Et le lendemain, elle est allée au bureau de police pour récupérer son passeport, qui n'avait pas été intercepté par les brigades de sécurité, quoi qu'ils aient dit, quoi qu'ils aient menti. Et puis, elle est partie direct à l'étranger. Et elle a comme ça échappé à une punition bien pire. Parce qu'on sait que souvent, dans des cas comme ça, ça commence par 3 mois, et puis souvent c'est des condamnations suivant ce qu'ils ont pu accumuler comme preuve de 5 ou 10 ans. Voilà à quoi ça peut représenter. C'était un petit exemple. Se préparer à la persécution, préparer l'Église des régions instables. Il peut y avoir toutes sortes de choses, mais ça peut être une chose importante. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est ce que je fais maintenant, c'est vous informer, vous mobiliser. Alors là, j'ai dit l'Église du monde libre, c'est justement ça que j'aurais pas dû dire. Dans le sens où on a plus de liberté ici qu'ailleurs, mais rappelez qu'on est une seule Église. Maintenant, je vais avoir quelques mots de prédication. Et je vous invite, ceux qui ont leur Bible ou leur smartphone avec eux, à ouvrir dans la 2e Corinthiens. On va lire au chapitre 11 de la 2e Corinthiens. Au fond, Paul, là, s'adresse à des gens qui ont souffert, des gens qui se sentent faibles. Et pour leur parler, Paul se vante d'être celui qui a le plus souffert et qui était le plus faible. Et il va même terminer le passage qu'on va lire ensemble en disant « Je suis fier de mes faiblesses ». Alors Paul, c'est pas le genre à faire le fier. Tant qu'il s'agit de lui, si on se moque de lui, on avait un surnom pour lui, Paulinus, le petit, le Miquelet, en bon vaudois, pardon, le tout petit, le rien du tout. Tant qu'on s'en prend à sa personne, apparemment il était aussi petit de taille, donc on transformait son prénom. Mais quand on s'en prend à son ministère, à ce pourquoi il a été appelé, amener l'évangile aux non-juifs, au monde grec, ça ne supporte pas. Et voilà que dans cette église de Corinthe, comme aussi dans l'église d'Éphèse, la lettre aux Éphésiens est plus connue pour ça, est plus connue pour ça. Voilà qu'il y a des super apôtres qui viennent expliquer à cette église que Paul n'a rien compris du tout et qu'il faut revenir dans la version judaïsante de l'Église, où on applique toute la loi. Et Paul ne supporte pas cette idée. Donc il va leur répondre à ces gens-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque des Romains, il y avait le culte romain. Il y avait les Juifs qui avaient un statut particulier, qui avaient le droit de pratiquer leur religion sous certaines conditions. Mais tous les autres étaient pourchassés. Et une des grandes tentations de l'Église du 1er siècle, ça a été de faire semblant d'être des Juifs, juste une dissidence juive, mais d'être des Juifs, donner toute l'apparence extérieure d'être des Juifs pour éviter la persécution des Romains. Et Paul leur dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Et si on lit ensemble au chapitre 11, depuis le verset 22, Paul nous dit, ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. De la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ, c'est une folie que je vais dire. On avait dit, Paul est fou. Ah ben, puisque je suis fou, allons-y pour la folie. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux. J'ai travaillé davantage et j'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. Quelque part, il dit, si on veut être dans la compétition, alors allons-y jusqu'au bout. Verset 24, 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Ce que Paul est en train de dire, mon ministère, celui pour lequel je paye un prix élevé, c'est un ministère dangereux et j'accepte. Et c'est non seulement quelque chose de dangereux, mais c'est quelque chose de pénible. Verset 27, « J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. » Et maintenant, il arrive au cœur, au verset 28, un ministère dangereux, un ministère pénible, physiquement parlant, et maintenant un ministère qui coûte, sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Et pour Paul, ce fardeau spirituel est encore apparemment plus lourd à porter que la fatigue physique ou que les dangers qui débouchent sur des craintes. En effet, qui est faible sans que je sois faible. Donc, qui est faible dans l'Église, sans que je sois faible, affecté moi aussi. Qui tombe, et certaines traductions disent, qui tombe dans le péché, sans que cela me brûle ou me crée une vive douleur. Oui, dit Paul, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Et puis au chapitre 12, entre les versets 1 et 6, il parle de ces révélations extraordinaires qu'il a eues. Il a été élevé jusqu'au troisième ciel, non pas au septième ciel, là, mais déjà le troisième, qui était déjà pas mal pour l'époque. Il dit, mais ces révélations que j'ai eues, elles sont pour moi, je ne peux même pas en parler. Et au verset 7, d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et il termine avec ce passage, avec ce verset 10 absolument fabuleux. « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Est-ce qu'on arrive à s'imprimer ça comme conclusion? Enfin, je vais encore développer, mais gardez ça comme conclusion pour ce matin. C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Paul, on l'a vu, cite toutes les épreuves par lesquelles il a passé, en tout cas les plus importantes, celles qu'il peut dénombrer. Et en disant ça, c'est un petit peu un rappel que quand l'Évangile arrive, et c'est une constante qu'on voit à travers les siècles et qu'on voit dans le monde géographiquement, quand l'Évangile arrive, pas juste un ou deux qui se convertissent, mais vraiment comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt. Eh bien, la population locale se divise en trois groupes. Le premier, c'est ceux qui montrent un intérêt. Et ceux qui vont plus loin que l'intérêt, qui se convertissent. Ça fait un premier groupe. Au fond, les sympathisants. Il y a un deuxième groupe, alors qui est souvent beaucoup plus large, beaucoup plus majoritaire, numériquement parlant, c'est ceux qui disent, un petit peu à l'image de ce que disait à Athènes, mais il veut quoi ce discoureur? Qu'est-ce qu'il a de nouveau à nous apporter? Et vous avez des gens qui disent, on a notre religion, ça va très bien comme ça, on n'a pas besoin de ce que vous nous amenez en plus. Mais il y a un troisième groupe qui va être le déclencheur de tout ça, c'est ceux que j'appelle les puissants. Ceux qui ont une autorité politique, une autorité religieuse, des chefs de clans mafieux. Imaginez n'importe quelle autorité, mais des gens qui ont une influence sur d'autres. Et quand l'Évangile arrive, voilà qu'ils perdent cette influence, une partie de cette influence. Leur autorité est remise en question. Quand vous avez de ces chefs mafieux au Mexique qui disent « Ah, pour bien rencontrer Dieu, il s'allie avec une espèce de catholicisme qui n'a plus grand-chose à voir avec le catholicisme, il faut boire cet alcool de poche à 70 degrés. Comme ça, vous êtes bien. » Bien entendu que c'est eux qui fabriquent le poche et puis qu'ils le vendent 100 fois, 1000 fois sa valeur, et puis qu'il y a un trafic intéressant pour eux. Et quand les chrétiens arrivent, ils disent « Mais on n'a pas besoin de ça pour rencontrer Dieu. On ne va pas vous l'acheter, votre alcool. » Alors, c'est remis en question. Et ces puissants qui sont en train de perdre leur pouvoir, quels qu'ils soient encore, qu'ils soient mafieux, politiques, religieux, eh bien, ils vont utiliser cette grande masse de ceux qui disent « Mais on n'a pas besoin de changer » pour essayer de remettre au pas ceux qui sont intéressés, les nouveaux convertis, et ceux, surtout, essayer de freiner cette contagion. Et c'est ça qui se passe du temps de Paul aussi. Des gens qui se convertissent, et ça va susciter de l'opposition. Et l'opposition va s'organiser. Et je pense à ce pasteur iranien qui disait, mais il écrit une lettre ouverte, condamné à 15 ans de prison, et il écrit à ses autorités en disant, mais qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me haïssiez à ce point? Ou cet autre pasteur iranien, ils étaient pasteurs, un bien grand mot, un groupe de 4 personnes qui étudient la Bible dans l'arrière-salle, dans la cuisine du restaurant. Et voilà qu'un beau jour, 2 étaient sortis. Quand ils ont vu que la police était arrivée, ils sont partis tout de suite à l'étranger. Et un des 2 a atterri à Échallon. C'est comme ça que je connais l'histoire. Et les 2 autres ont été arrêtés, dont le plus ancien, celui qui menait le groupe, condamné à 10 ans de prison. Il dit, mais il semble que 4 personnes qui étudient la Bible dans une cuisine sont considérées par nos autorités comme plus dangereux qu'un missile à tête nucléaire. Ils en ont peur de cet évangile. Ou Mustapha Krim, qui était à l'époque président de l'Église protestante d'Algérie, quand ils ont passé des nouvelles lois pour restreindre l'Église, ils ont dit, il semble que 30 petites communautés, maintenant c'est une quarantaine, mais 30 petites communautés protestantes sont capables d'ébranler la foi de 30 millions de musulmans en Algérie. Puisqu'il faut faire des lois exprès pour nous. 30 églises qui ébranlent la foi de 30 millions de musulmans. Voilà comme c'est considéré. Mais je l'ai déjà dit en lisant le texte, ce n'est pas ces attaques extérieures qui sont le plus difficiles à soutenir pour Paul. C'est ces luttes internes, ces faux frères, ou ceux qui tombent. Et si je vous parle de l'Église persécutée, si je vous montre comment certains peuvent résister, je suis aussi là pour tordre le cou à un mythe qui voudrait que l'Église persécutée y est tellement unie. Vous savez, on a... Je ne sais pas pourquoi on idéalise les choses. Très souvent, il faut que ce soit depuis l'extérieur, des missions comme Portes Ouvertes et d'autres qui viennent pour essayer de pousser les gens un tout petit peu à travailler ensemble. Pour la bonne et simple raison que c'est des gens qui ont appris à résister. Et c'est un peu des gens qui ont la tête dure, disons les choses, appelons-les un chat un chat. Et quand vous essayez de faire travailler ensemble deux personnes qui ont la tête dure, mais quand même, l'Évangile arrive, l'Évangile progresse. Et je me souviens, c'était un des tout premiers cours où j'étais allé avec Portes Ouvertes, il y a plus de 20 ans de ça. On avait fait venir de toute l'Asie centrale des gens, et voilà qu'il y en avait deux qui étaient venus de la même ville, la même capitale. Ils étaient plutôt d'un bord et plutôt de l'autre bord, théologiquement parlant. Et ils n'en étaient même pas à changer de trottoir quand ils se voyaient, mais à changer de rue. Et si on leur avait donné la liste de tous ceux qui étaient invités, probablement que ni l'un ni l'autre ne serait venu. Parce qu'on aurait dit, oh, si celui-là vient, je ne viens pas, et vice-versa. Mais heureusement, alors au début, ils étaient, bon, la salle, elle faisait à peu près comme ce carré-là, mais il y en avait un qui était, je le vois encore, qui était tout à droite, tout au fond, puis l'autre tout à gauche, tout devant. Vous savez, la distance, la diagonale maximale. Et après 5 jours, les cours allaient du lundi au vendredi. On a fini le samedi matin par un repas, mais les cours terminaient le vendredi. Voilà que le vendredi matin, ils étaient assis les deux devant à gauche. Il y avait déjà eu un rapprochement. Et le soir, et je m'en souviens parce que c'est moi qui apportais la méditation ce matin-là, et je les vois encore. Mais le soir, ils ont annoncé publiquement qu'ils allaient évangéliser leur ville, je ne peux pas la mentionner, ensemble. Et c'est là que l'évangile, ça devient de la dynamite, je peux vous assurer, quand on est ensemble. Mais voilà, Paul souffre de toutes ces divisions, de toutes ces... brinque de tous ceux qui chutent. Et ce que Paul nous dit à travers ça, c'est que chaque fois que j'entends parler de choses comme ça, chaque fois que j'entends parler de quelqu'un qui tombe ou de dissension dans une église, ça m'affecte. Ça m'affecte, j'en suis humilié. Je me sens faible. Mais ce que Paul peut dire, et ce que je peux dire grâce à son témoignage à lui aussi, parce qu'on va y venir avec un témoignage concret, Paul va nous dire, c'est quand je suis faible que je suis réellement fort en Christ. Et je pense à un exemple très concret, on devait aller amener des Bibles dans un pays où ça ne doit vraiment pas se savoir. Et on devait se déplacer en route avec un bus la journée et puis le soir aller voir nos amis et pendant que, parce que, vous savez, la nuit tous les chats sont gris, mais voilà qu'on a pris du retard et du retard et du retard. Et on arrivait qu'à 2h du matin. À 2h du matin, vous ne pouvez plus aller commencer de vous promener dans les rues. Déjà, les gens dorment, c'est suspect. Et puis deux qui se baladent ou même si on s'était réparti la tâche à 2x2, je veux dire qu'il se balade à 2h du matin, c'est pas sage. Donc il a fallu faire ça 2 jours, et on avait moins de temps évidemment parce qu'on repartait. Et voilà qu'on était en route, et le collègue avec qui on porte les affaires, chacun des affaires dans notre sac, il dit « Donc, je crois bien qu'il y en a un qui nous suit depuis l'hôtel. » Ben ouais, ça risquait d'arriver. Alors du coup, on s'est arrêté devant une magnifique... Vous savez, il vendait des gros ventilateurs industriels, vous savez, 2 mètres de diamètre. On s'est arrêté devant la vitrine pour contempler ces choses-là, parce que bien sûr, c'est pour ça qu'on était venu, hein. Lol. Et celui qui nous suivait, ben, il était obligé de continuer son chemin. Alors on est reparti dans l'autre sens. Puis on s'est mis dans une encoignure. Puis on l'a vu repasser dans l'autre sens. Mais il n'a pas osé ouvertement se coller à nous. Donc. Et par chance, ça doit être dans cette ville la seule rue arrondie. Toutes les autres, elles sont alignées au cordeau. Et je connaissais la ville, donc on a pu s'enfiler dans cette rue arrondie. Et le temps que ce monsieur arrive, on était hors de vue et on a pu apporter nos choses. Et mon ministère, en 30 ans, je peux vous dire, à chaque fois on a l'impression que c'est passé, mais juste à la raclette. Il s'en est fallu d'un cheveu. Et à chaque fois on se dit, ben, la prochaine fois je serai plus malin, je me prémunirai contre ci, et vous pouvez être sûr, c'est autre chose qui foire. Et de nouveau une fois, ça passe, mais sur le fil du rasoir. Et si on veut exercer un ministère pour Christ, il faut apprendre à s'appuyer sur ses forces. Alors bien sûr qu'on se prépare, bien sûr qu'on fait tout ce qu'on peut, bien sûr qu'on accumule toute la sagesse possible. Mais il y a un moment où c'est lui qui va le faire et où on lui est redevable. Parfois, on est dans des situations telles qu'on se sent même trop faible pour prier. C'est le sens de l'intercession en groupe aussi. Peut-être parfois, il y a des moments où on ne peut pas prier. Mais parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, ce magazine, ouais, quand même, c'est des situations difficiles que vous rapportez. » Alors moi, je dis « Mais lisez pas tout d'un coup, vous vous contentez d'un sujet par jour. » Parce que Dieu ne vous appelle pas à porter le monde entier, il vous appelle aujourd'hui à porter ça. Et c'est ça le secret si on veut être efficace pour l'Église persécutée. C'est pas essayer de toute la porter en une fois, mais on s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais pour lui, je prie. Pour ça, je prie. Je m'engage pour ça. Et entre guillemets, si on veut manger un éléphant, il vaut mieux le découper en petits morceaux que d'essayer de l'avaler tout rond. Peut-être l'Église persécutée, dans l'ensemble, c'est un éléphant, c'est même un mammouth. Alors, préoccupez-vous de la personne que Dieu vous met à cœur aujourd'hui. Et puis le reste, c'est d'autres qui s'en chargent, c'est demain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important aussi. Alors j'ai juste montré ce magazine, je n'avais pas prévu de le faire maintenant, mais en fait je vais le faire maintenant, avant qu'on passe en Afghanistan. Vous les avez trouvés sur vos chaises. Je m'adresse aussi à ceux qui sont dans la salle à côté, même si je ne vous vois pas. Il y en a aussi qui ont été mis. Il y a une carte avec. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous le recevez gratuitement. On n'est pas du genre à s'incruster. Donc le jour où vous dites « ça ne correspond plus à rien pour moi », vous nous envoyez un petit mail ou un petit courrier. Et puis, on ne va pas s'accrocher à vous. Mais on a besoin de vous, on a besoin de vos prières. Et j'aimerais juste vous dire, on est une seule église, je connais des gens, notamment en Algérie, mais dans d'autres pays, que je ne peux pas mentionner, qui nous disent, on prie tous les jours pour la Suisse. Alors s'ils savaient qu'il y avait des Français parmi nous, ils auraient dit pour la France. Comprenez ce que je veux dire? On est une église et on prie les uns pour les autres. Et parfois, certains ont besoin de prière, d'autres peuvent apporter la prière, mais c'est comme ça qu'on vit ensemble. Dieu se plaît à répondre à nos prières. Je finis avec cette petite anecdote. Quand j'ai commencé à Porte Ouverte, on priait tous les jours pour une collègue en Chine qui avait été arrêtée. Une dame qui s'appelait Rebecca. Et j'avais mon petit dernier qui avait 3 ans à ce moment-là. Et voilà qu'un jour, je rentre un peu plus tôt du travail et je dis à mon fils qui est seul dans l'appartement, « Rebecca est libérée ». Il a fait les 3 étages pour descendre jusqu'à la buanderie où sa maman était en train de faire la lessive. Et je l'ai retrouvé en train de danser en rond dans la buanderie. Rebecca est libérée, Rebecca est libérée. Mais si on n'avait pas eu la prière pour Rebecca tous les jours, ça ne lui aurait rien fait. Et c'est là que ça se vérifie. Si un membre du corps souffre, tous souffrent. Mais si un membre se réjouit, tous se réjouissent. Et plus je m'implique pour les chrétiens persécutés ou pour X ou Y personnes, plus je m'implique dans la prière pour quelqu'un, plus lorsque la réponse arrive, je vais pouvoir me réjouir. Si j'avais dit à un voisin ou à n'importe qui, à Rebecca est libérée, oh bon, elle était en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas y avoir de joie parce qu'il n'y a pas eu de le partage de cette souffrance auparavant. On va partir concrètement maintenant en Afghanistan et au Pakistan. Et on va parler de cette talibanisation de l'Afghanistan et du Pakistan. Au fond, dans ces deux pays, ce n'est pas étonnant que les talibans afghans ont gagné si rapidement cette pseudo-guerre au mois de juillet-août. Parce que 80% de la population est acquise à leur cause. Donc même si vous avez reçu des armes pour combattre ces gens-là, si vous croyez que ce qu'ils amènent, c'est ce qu'il faut pour le pays, ben, ce n'est pas étonnant qu'ils aient pu avancer si vite sans avoir besoin de combattre. Mais ce qu'il y a d'important aussi à savoir, c'est que au Pakistan également, 70 à 80% de la population est acquise à cette cause du fondamentalisme musulman prôné par les talibans. Talibans, ça veut dire étudiants. Ils vont dans des madrassas au Pakistan, dans des écoles coraniques, où tout ce qu'ils vont faire, c'est d'apprendre le Coran par cœur. Maintenant, il faut juste se souvenir que tant au Pakistan qu'en Afghanistan, que même dans l'Iran voisin, la langue qui est parlée, c'est une langue indo-européenne. Donc quand vous apprenez le Coran en arabe par cœur, c'est juste une récitation. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Personne de ces gens-là ne sait le contenu, puisque personne ne parle et ne comprend l'arabe. Donc ils ont juste appris une sorte mémorisée des phrases en arabe. Et beaucoup de ces talibans sont capables de réciter le Coran de A à Z par cœur. Ils le récitent par cœur d'un bout à l'autre sans en comprendre le premier mot. Vous savez que chaque année, Portes Ouvertes publie un index de persécution et très, de façon très intéressante, ben voilà, je crois que j'ai une carte plus grande après, voilà. Hein? Le Pakistan est au 5e rang de cette liste et l'Afghanistan voisin est au 2e rang, sans les talibans. Je ne sais pas ce que ça va donner cette année. Quand on publiera l'index 2022, peut-être qu'ils arriveront au même niveau que la Corée du Nord. En tout cas, pas très loin. Donc ça, c'est la réalité. Et on a un petit film qui rappelle la situation de ces 5 pays où l'Église est le plus persécutée, et on va le passer maintenant.
Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'index 2021. Numéro 5, le Pakistan. Attaques personnelles et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérent à l'islam radical, vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4, la Libye. La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3, la Somalie. Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien, il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2, l'Afghanistan. Les talibans étendent leur influence en Afghanistan. Et l'État islamique, bien qu'en déclin, continue de persécuter les chrétiens. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle, et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index, et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie, et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir.
Voilà. Donc ces deux pays, Afghanistan deuxième rang, Pakistan cinquième rang, avec un islam omniprésent, ça régit toute la société. Dans ces deux pays, l'islam, le Coran, les interprétations du Coran sont considérées comme supérieures à la législation. En Afghanistan, ça va même au point, on ne peut pas officiellement devenir chrétien. Si on découvre que vous êtes chrétien, vous perdez votre nationalité. Et là encore, je parle de avant l'époque des talibans. Là maintenant, ça ne va même pas aller si loin, puisqu'ils visitent de maison en maison pour voir s'il y a des opposants et ils ne vous posent pas de questions. C'est deux balles, hein. Et puis dans ces deux pays, comme ça a été mentionné dans le film, eh bien l'État islamique et ses groupes islamistes, pas ceux qui sont au pouvoir, mais d'autres qui poussent encore, sont aussi une menace pour les Pakistanais, pour les Afghans, mais bien entendu encore plus pour les chrétiens pakistanais et afghans. L'Afghanistan est connu comme le pays de la burqa bleue. Juste une petite parenthèse. Ça fait guère qu'une quarantaine d'années que ça existe, ce vêtement. Hein. C'est pas un vêtement traditionnel afghan. Hein. C'est quelque chose de récent. Comme la burqa noire en Arabie, il y a 20 ans, elle est. Pas plus, hein. Celle avec les deux trous. Afghanistan, pas d'église. La seule église qui existe, c'est celle de l'ambassade d'Italie, mais qui est fermée depuis mars 2020 pour cause de corona. Et n'y allait évidemment que des expatriés, pas question d'aller pour des Afghans. Mais il y a quand même une église indigène en Afghanistan, 5 000, 6 000 personnes peut-être converties, doivent tous se cacher, taire leur foi. Pour une fille, quand on découvre qu'elle est chrétienne, alors ce sera le mariage forcé ou arrangé, utilisez le mot que vous voulez, mais c'est quand même ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afghanistan, de toute façon, c'est 80% des mariages qui sont arrangés. La loi dit, ou disait, je ne sais pas si ça va changer avec les talibans, mais avant les talibans, la loi disait pas de mariage avant 16 ans, la moitié des mariages avaient lieu avant 16 ans. Et on a des photos, je n'ai pas le temps maintenant de vous montrer ça, mais d'une jeune fille de 12-13 ans avec un vieux barbu de 45-50 ans, c'est pas inhabituel du tout. Donc pour les femmes, ça va être le mariage arrangé, avec si possible quelqu'un de bien radical qui la mette bien ou pas, dès le moment qu'on a découvert qu'elle est chrétienne. Pour les hommes, c'est différent. L'homme, il a le statut, c'est lui qui doit amener le salaire à la maison. Et si vous êtes commerçant et qu'on découvre que vous êtes chrétien, ben on va vous boycotter. Et tout d'un coup, vous ne valez plus rien. Si vous êtes employé, eh bien, vous allez tout simplement perdre votre travail. Et on va s'arranger pour faire savoir à tout éventuel employeur potentiel que celui-là, non, il ne faut pas l'embaucher. Il y a assez d'autres. Et donc, tous ces gens doivent cacher complètement leur foi au risque de devoir se terrer et vivre de façon dramatique. Il y a un seul cas qui est vraiment connu et qui a été publié dans... qui a été publié dans le New York Times en 2014, donc c'est déjà une vieille histoire, 7 ans. C'était un Afghan, enfin c'est toujours un Afghan, qui s'est réfugié en Allemagne, qui a trouvé la foi en Allemagne et qui a compris que Dieu l'appelait à retourner dans son pays pour amener l'Évangile. Et ce journaliste américain s'est intéressé à son cas et a publié, ça fait une bonne page et demie dans le New York Times, j'ai l'article anglais intégral si ça vous intéresse, mais où il montre comment cet homme, en fait, vit la nuit, il se terre comme un rat, il a une espèce de cave souterraine de 3 mètres sur 3 où il habite, c'est là que cette photo a été prise, et la nuit il sort pour trouver sa nourriture, pour mendier à quelque part ou pour récupérer des restes dont personne ne veut. Mais surtout, il sort, parce que c'est comme ça que ça se pratique aussi dans les pays voisins, comme le Pakistan, comme l'Afghanistan, quand vous évangélisez, en fait. Vous évangélisez la nuit, vous allez sur les bancs, il fait doux, il y a d'autres personnes assises sur les bancs, et vous annoncez l'évangile à votre voisin, et parce que la nuit, tous les chats sont gris, vous êtes difficilement reconnaissable. Et si ça donne rien, ça donne rien, au revoir. Et si tout d'un coup il y a un intérêt, ben il y a un intérêt, puis on va peut-être aller plus loin, on se donne rendez-vous une prochaine fois, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que cet homme vivait au moment où ce journaliste l'a rencontré et a écrit cet article sur lui, en lui donnant un prénom d'emprunt. Au Pakistan, la situation est un peu différente, dans le sens où c'est un pays nouveau qui a été créé lorsque les Anglais se sont retirés. Ils ont imaginé un pays pour les hindous, l'Inde, et puis un pays pour les musulmans, le Pakistan, avec les problèmes que ça suppose, parce que dans les deux, il y avait des chrétiens. Et au Pakistan, ben, il y a actuellement environ 4 millions de chrétiens, donc qui ont le droit de citer, puisqu'ils étaient là au moment où le pays a été créé, mais ils s'aperçoivent que leur situation devient chaque année pire. Ils disent on n'a plus notre place dans la société, on n'a plus aucune influence. Bien sûr, ils ont 3 parlementaires d'office, les chrétiens au Pakistan, mais ils n'ont réellement aucune influence. Et au Pakistan, en dehors des risques d'attentats dont on va parler brièvement, il y a tous ces problèmes d'enlèvement de jeunes filles. Peut-être si vous êtes un lecteur attentif de notre magazine, c'est la première fois que je publie cette photo. On avait publié la nouvelle 100 mètres de photo ou avec une photo prétexte. En octobre, il y a juste une année comme maintenant, Arzu, 13 ans, s'est fait enlever. Marié de force avec un musulman de 44 ans, Ali, qui l'a enlevé. Bon, ça commence par un viol, puis on règle ça par un mariage. Pour qu'il y ait mariage entre un musulman et une chrétienne, il faut qu'elle se convertisse à l'islam. Tout ça, bien sûr, sans l'accord des parents. Et la plupart du temps, il y a environ 700 cas comme ça par année, la plupart du temps, les parents se taisent, ils ne veulent pas en rajouter. Et là, ils se sont battus auprès de la police pour qu'ils recherchent leur fille. Et finalement, ils ont retrouvé ce couple. Et Ils ont fait des analyses et comme elle avait menti sur son âge, enfin, ils avaient menti pour elle sur son âge, prétextant qu'elle avait 18 ans, l'âge légal au Pakistan, ben, ils ont pu voir physiquement, physiologiquement, qu'elle n'avait pas 18 ans, mais bien 13 ans. Le mariage a été cassé, l'homme a été arrêté, mais elle, elle n'a pas été rendue à sa famille. Parce que maintenant, elle est musulmane, et il faut protéger cette nouvelle foi naissante. Donc ce serait dangereux pour elle de retourner dans sa famille chrétienne. Donc elle est dans un espèce de foyer où elle subit une sorte de lavage de cerveau chaque jour pour bien l'endoctriner dans l'islam. Et à quelque part, sa situation actuelle est presque pire que lorsqu'elle était avec son ravisseur. D'autres choses aussi, il y a quand même des musulmans d'origine, enfin des chrétiens d'origine musulmane qui se convertissent au Pakistan, et tous ceux-là alors vivent comme au Pakistan dans des groupes, absolument des petits groupes, et qui respectent une totale clandestinité. Impossible pour quelqu'un comme moi, ni pour vous, enfin, d'aller rendre visite à ces groupes, évidemment. Et que ce soit d'un côté comme de l'autre de la frontière, quand ces gens se rassemblent, qu'est-ce qui est important pour eux? C'est ça. C'est ça. C'est important qu'ils aient une Bible dans leur langue. Et c'est là la force de l'évangile, c'est que nous, on apporte un évangile qui est traduit dans leur langue, au contraire du Coran. Dieu me parle dans ma langue, je n'ai pas besoin d'apprendre sa langue à lui. Vous voyez l'importance? Dernièrement, dans un séminaire au Pakistan, il y avait cette femme de pasteur qui racontait comment, ben voilà, elle est assaillie, il y a des gens qui viennent à la maison, qui lui posent tel ou tel problème, il y a tel problème dans telle famille, etc. Plein de choses à porter. Puis son mari, pendant ce temps, il est au bureau qui est à côté de l'église, et lui, il reçoit toute sa dose de problèmes à régler chaque jour. Elle dit, quand il rentre, je ne vais pas encore le bassiner, en rajouter une couche sur ce qu'il a déjà dû subir toute la journée, et moi, je porte moi toute seule ce que j'ai reçu moi dans la journée. Elle disait, il y a eu un moment où j'avais envie d'être comme dans le roman de C.S. Lewis, Narnia, avoir une armoire. Je peux ouvrir l'armoire et puis rentrer dans cette armoire et puis d'être dans un monde merveilleux, un monde différent où il n'y a pas tous ces problèmes qui viennent chaque jour. Puis elle dit, tout d'un coup, mais j'ai réalisé, mais je l'ai mon armoire. Quand j'ouvre la Bible, tout d'un coup, c'est le monde de Dieu qui se déroule. C'est plus mon monde qui est important. Et ces moments avec Dieu sont précieux. Alors bien sûr, elle jouissait d'autant plus d'avoir ce séminaire où les femmes de pasteurs étaient accueillies à part. Les pasteurs d'un côté, les femmes de pasteurs de l'autre, où elles pouvaient déballer ce qu'elles avaient. Mais c'est important pour elle d'avoir ce temps où elle peut se ressourcer auprès de Dieu. Et puis ce temps particulier de séminaire. Alors voilà, au Pakistan, avant les talibans déjà, avec l'État islamique, mais même encore maintenant, même avec les talibans, le risque d'attentat est là. Vous savez que pratiquement toutes les ONG sont parties, hein, il n'y a presque plus personne d'occidental, en tout cas, qui travaille là-bas. Un jour, depuis que les talibans étaient rentrés, je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma femme, il y a un groupe qui part en Afghanistan. Elle dit, du quoi, tu ne veux pas y aller là-bas quand même? J'ai dit, non, je te rassure, c'est un groupe qui part depuis le Pakistan. Parce que pour eux, c'est normal, c'est naturel de traverser la frontière. Et donc, le risque pour les Occidentaux en Afghanistan est bien réel. Mais le risque pour les églises au Pakistan est bien réel aussi, et ils ont bien compris. Vous savez, quand ils font un attentat, comme par hasard, ça se passe juste avant. Au début, ils faisaient Pâques. Maintenant, ils ont compris qu'il faut faire les rameaux. On va en parler jusqu'à Pâques à l'Occident, parce qu'il n'y a rien d'autre à mettre dans les journaux. Ça choque l'opinion. On aime bien faire ce qui choque l'opinion. Donc, à Pâques, à Noël, priez en particulier pour ces églises. Il y a un Afghan converti qui a donné son témoignage et qui est rapporté dans un livre en allemand, Träumen und Visionen, et cet homme qui dit, ça fait 70 ans que notre pays est en guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. c'est devenu un enfer. Mais la Bible nous promet, et il faudra bien qu'un jour les portes de l'enfer de l'Afghanistan cèdent et laissent entrer le prince de paix. Et cet homme qui a compris ça, eh bien, il parcourt l'Afghanistan en partageant ce témoignage de paix. Il annonce le prince de paix, les portes de l'enfer doivent céder. Alors, juste, je ne peux pas vous le lister ici à l'écran, c'est un petit peu délicat, mais dans ces deux pays, sachez qu'il y a de l'alphabétisation qui se fait, il y a des projets professionnels, donc des formations professionnelles, il y a de l'aide d'urgence aux victimes de persécution. Dans ces deux pays, il y a un ministère auprès des femmes, il y a des enseignements bibliques de base pour ceux qui ont... Vous voyez, quand vous êtes chrétien, vous avez vraiment le minimum de minimum d'éducation. Au mieux, vous savez juste lire. Puis que vous avez un musulman qui vient vous défier, et puis dit, alors, il paraît que Jésus-Christ est Dieu. Oui, oui, oui. Ah. Et pendant 3 jours, Jésus-Christ est mort, il était au tombeau. Enfin, c'est ce que tu crois. Oui, oui. Alors, ça veut dire que Dieu était mort pendant ce temps. Des argumentations aussi simples que ça. Si vous n'êtes pas armé face à ça, vous allez être déstabilisé, puis après on vous enfile, et puis vous vivez dans une société où tout est régi par l'islam, et finalement, c'est très difficile de croire, parce que l'islam a repris beaucoup d'histoires bibliques, mais les a tournées à sa façon, et faire le tri entre ce que la Bible dit vraiment et ce qui est de l'influence de la société, c'est très compliqué. Alors voilà, on va avoir brièvement maintenant un temps de prière, parce que mon temps est écoulé. On va prier pour Arzou, pour qu'elle puisse retrouver une pleine et entière liberté. Je ne sais pas comment et quand ça va se faire. On continue d'y croire. Et on va prier pour tous ces Joseph, puisque c'était le nom qui était utilisé pour ce converti afghan, pour tous ces gens qui doivent se terrer en Afghanistan, qu'ils soient hommes, femmes, enfants. On va prier pour eux. Alors je vous invite maintenant... On ne peut pas trop bouger pour respecter les règles du corona. Mais je vous invite peut-être à vous tourner l'un vers l'autre ou lorsque naturellement il y a des couples ou des groupes, ben, priez maintenant ensemble pour les chrétiens persécutés et en particulier pour Arzou et pour Joseph. Je vous montre les images et puis je conclurai moi par la prière. Ça va comme ça ?